on pourra déborder et poser un certain nombre de questions au-delà de ce programme de recherche. Donc, ce que je vous propose, je vais faire un partage d'écran et on va pouvoir commencer l'intervention. Des choses bizarres qui s'affichent à l'écran. Vous m'entendez? Super. Donc, le programme de recherche que je vais vous présenter s'inscrit dans le domaine des morts de masse, ou en tout cas des situations de mort en temps de crise, et il s'articule à différents programmes de recherche. Et il me semble intéressant justement de mettre l'accent sur ces programmes et également sur les raisons en cours, qui montrent aussi que ce type de programme n'est pas isolé, et bien s'inscrit dans une démarche qui dépasse un seul projet qui serait isolé. Donc, il est adossé à une équipe de recherche, donc dans le laboratoire Hadès, qui travaille sur ces problématiques également, plutôt sur les situations de mort violente. Mais il nous semble tout à fait intéressant d'aborder aussi la question des épidémies et des catastrophes hors des contextes de situations, par exemple, de conflits, de guerres ou de génocide. Par ailleurs, et vous le verrez tout à l'heure, ce programme s'adosse aussi un réseau de recherche qui en fait s'intitule Transfunéraire, qui est Transition funéraire, pardon, qui est en fait un programme qui est financé et soutenu par l'École française de Rome, où un certain nombre d'historiens, mais également d'anthropologues, de sociologues, d'archéologues, travaillant sur l'évolution en fait du rapport à la mort et des conséquences, notamment sur la manière dont on peut appréhender ces questions-là, tant du point de vue de la mort, d'un point de vue générique, mais aussi des morts, et toutes les questions qui peuvent se poser sur les trajectoires de corps, sur la manière aussi de traiter les morts, également sur des questions autour de la sépulture. Donc, c'est des questions qui nous paraissent tout à fait fondamentales. Comme l'a rappelé aussi tout à l'heure Valérie, le programme ENR est en lien. Non pas forcément direct, mais en tout cas est en lien notamment sur les réflexions qui peuvent être conduites dans ces différents programmes avec le programme transfunéraire dont on vient vous présenter, enfin, qu'on vient de vous présenter il y a quelques instants. Donc j'essaie de passer à la diapo suivante. Ouais, ça y est. Donc, en fait, l'objectif de cette présentation va être d'insister sur.
C'est pas passé à la suivante.
Pour moi, si.
Continue, tu peux cliquer là.
Si, si, c'est passé, regarde. Donc, excusez-moi. Donc, mon intervention d'aujourd'hui aura un double objectif, présenter un programme de recherche qui est actuellement en cours dans un contexte tout à fait spécifique, et il me semble important d'insister sur la manière dont on a appréhendé cette recherche et son contexte de réalisation, parce qu'on est confronté à un certain nombre à la fois de difficultés, mais aussi une forme potentiellement d'une assignation des chercheurs à un certain nombre de rôles sociaux, notamment du point de vue des médias et des pouvoirs publics. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments dans ce sens-là. Peut-être aussi vous dire que ce programme de recherche est un programme qui est conduit par des anthropologues et des sociologues, mais il a un comité scientifique beaucoup plus large qui permet d'aborder ces questions dans une vision interdisciplinaire. Voilà. Donc, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, ça c'est un aspect qui me semble aussi important et qui a permis aussi à ce projet d'aboutir, c'est qu'en fait, parmi les collègues qui font partie de ce programme, on a pour la plupart, une double casquette, c'est-à-dire que la plupart travaillons sur des aspects relatifs à la mort d'un point de vue général et aussi les questions de la fin de vie, mais également sur une approche sur les morts de masse. Et c'est bien cette double compétence, on va dire, ou cette double aspiration à mener des travaux en ce sens-là qui nous a permis de faire aboutir ce projet. Alors, On n'avait pas nécessairement anticipé cette crise. Et là, on va se repositionner au mois de février dernier. Au mois de février dernier, je suis avec mon collègue Marc-Antoine Berthaud, qui est un collègue suisse, et nous commençons à réfléchir à une articulation de nos travaux, puisque ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ensemble dans des réseaux. Et là, l'idée, en fait, c'est petit à petit de commencer à réfléchir à la mise en œuvre d'une chaire en études sur la mort qui permettrait de travailler avec des collègues en Suisse, en Italie et en France, et notamment aussi d'impliquer les étudiants dans des séminaires et dans des ateliers de recherche. Là, nous sommes en février. En mars, le projet transfunéraire débute et nous sommes tous réunis à Marseille et on n'a pas encore idée de ce qui nous attend, même si on en voit les prémices. Et en fait, tout s'accélère en une semaine ou deux, où en fait, on est sollicité par des acteurs professionnels notamment, des acteurs du funéraire. Nous sommes également sollicités par les médias et Magali Molinier, qui est présente aujourd'hui, nous avons décidé d'écrire une tribune dans le journal Le Monde pour en fait dire que nous étions dans une situation particulière qui nous faisait réfléchir en tant que chercheurs et sur une position de vigilance d'un point de vue, on va dire, de la recherche. Pour autant, on est extrêmement vigilant parce qu'on voit poindre des questionnements qui nous semblent à la fois intéressants, mais parfois aller trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'on a déjà des réflexions, par exemple, en termes de résilience. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes commencent à parler de résilience alors que la situation de crise n'est pas encore véritablement identifiée. On a aussi des réflexions du point de vue des médias qui sont très précocement centrées sur la question des trajectoires de deuil, alors même qu'on est dans une situation où il y a quelques dizaines de morts en France et quelques centaines autour du 15 mars. Donc on est dans une anticipation des conséquences de cette crise, alors même qu'on n'arrive pas à la délimiter, à la circonscrire et à la comprendre du point de vue des enjeux funéraires. Donc, on doit faire face, nous, en tant que chercheurs, à ces sollicitations. Quand je dis faire face, il y a plusieurs postures, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait refuser de se confronter à cette situation, et ce qui n'est pas un problème en soi, puisqu'on est tout à fait légitime à dire donc à ces sollicitations, notamment d'ordre médiatique, bah, écoutez, non, pour nous, il est trop tôt pour répondre à vos questions, ou ces questions ne nous paraissent pas adaptées. Et puis, c'est vrai que face aussi à la masse de sollicitations et de questionnements, on peut aussi se dire qu'il y a une légitimité pour le chercheur, à un moment donné, de prendre la parole. Mais là, il faut essayer de bordurer, entre guillemets, son discours et savoir jusqu'où on peut aller et comment aussi être dans une démarche qui, d'un point de vue de la déontologie professionnelle, est acceptable. Réfléchir aussi sur les enjeux éthiques d'une prise de parole et ce que ça peut impliquer. Et aussi, moi, j'ai beaucoup réfléchi durant cette période à l'effet performatif du langage. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je suis identifiée comme une spécialiste du rapport à la mort. Et au nom de quoi je parle, c'est-à-dire que est-ce que je parle au nom des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, est-ce que je parle au nom des travaux que j'ai pu conduire mais qui n'étaient pas sur cette crise précisément, ou est-ce que je parle en tant que citoyenne ou en tout cas en tant que personne intéressée par ces questions-là. Donc c'est une situation qui n'était pas simple, on pourra en discuter si ça vous intéresse. On a essayé, je pense, avec un certain nombre de collègues, de prendre une parole relativement mesurée, mais ne pas refuser, malgré tout, d'intervenir parce que d'autres prenaient la parole et, je trouve, avaient parfois des discours qui, pour certains, me faisaient réagir, moi, en tant que chercheur. Donc, comme je le note sur cette diapo, ce qui était assez intéressant dans les sollicitations que l'on pouvait recevoir, c'était une grande inquiétude sur les conditions de la fin de vie, notamment en EHPAD et à l'hôpital, qui a surgi relativement rapidement, mais qui est montée en puissance et qui était très présente au mois d'avril notamment. Des questions relatives aux obstacles liés à la réalisation des obsèques, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des opérateurs funéraires qui travaillaient et qu'effectivement, les obsèques, ça n'est pas rien, que l'organisation de ces temps qui sont aussi des temps sociaux, mais qui ont du sens aussi dans les trajectoires de vie, trajectoires de mort, donc qui sont des temps très importants à l'échelle d'une famille, et notamment quand un décès intervient dans des conditions telles que celles qui ont pu se réaliser lors du confinement. Donc ça, c'était une question très importante, et la thématique, et on pourra bien entendu échanger là-dessus ultérieurement, la question du deuil, des deuils bousculés, des deuils traumatiques, est arrivée très vite comme étant la question centrale qui a occupé les médias. Alors vous allez me dire, est-ce qu'en tant que sociologue, est-ce qu'en tant qu'anthropologue, est-ce qu'en tant qu'historien, on peut évoquer cette question du deuil ? J'en suis intimement persuadée, puisqu'on a des travaux sur les problématiques du deuil qui sont des travaux anciens en sociologie et en anthropologie. Certes, il est vrai que nos collègues psychologues, neuropsychologues également ont, on va dire, un soubassement de travaux plus conséquents que ne l'ont nos disciplines. Mais pour autant, il me semblait que la diversité des approches était essentielle sur cette question du deuil. Donc, on pourra évidemment échanger si vous le souhaitez. Donc là, je viens de vous parler des premiers temps, au mois de mars notamment. Et en fait, la question s'est posée très rapidement au vu de ce paysage, en fait, à la fois médiatique et à l'entrechassement des problématiques de recherche. On s'est demandé s'il était légitime ou non de répondre à des appels à projets. Parce qu'en fait, il s'est avéré que les agences nationales de la recherche ont produit donc des appels flash qui s'intitulaient Covid-19. Dans un certain nombre de pays, c'était le cas sur l'ANR en France, c'était le cas aussi sur le Fonds national suisse en Suisse. Et donc, des appels à projets dont les deadlines étaient très rapprochées, puisqu'en fait, pour l'ANR, on était sur une deadline le 23 mars, sur le Fonds national suisse, tout début avril, alors même que nous sommes préoccupés de ces questions d'un point de vue scientifique autour du 15 mars. Donc la décision a été prise très rapidement et on s'est dit ben, pourquoi pas, on y va. Sachant que les appels à projets étaient rédigés de telle sorte que les sciences humaines et les sciences sociales avaient leur place, sachant que c'était une place qui était relativement réduite, puisque évidemment les questions d'ordre médical, de santé publique et sur les questions d'épidémiologie étaient évidemment centrales, et les sciences humaines étaient l'appel qui était fait aux sciences humaines était beaucoup ou quasi exclusivement centré sur la question éthique, même si la question du confinement est venue a posteriori, puisque quand ces projets ont été rédigés, évidemment, on n'était pas encore dans une situation de confinement. Donc on s'est dit, pourquoi pas, à partir du moment où la dimension éthique est posée, évoquer potentiellement les questions funéraires. Et la question qui se posait, c'était de savoir comment délimiter ces projets-là. Donc, on a écrit en 48 heures, en fait, un projet. Ce qui, finalement, et ça, si ça peut rassurer un certain nombre de collègues, finalement, je crois que quand on est soumis à une temporalité si courte, on va à l'essentiel et on arrive à avoir des projets qui, finalement, sont peut-être plus directs que les projets qu'on peut écrire quand on met des mois et des mois à les élaborer. Donc, c'est vrai qu'au départ, on pensait que nos chances étaient réduites, et finalement, d'obtenir ces projets-là. Mais la confiance de nos collègues, et puis aussi l'intérêt qu'on avait pour ces projets, finalement, ont fait qu'ils ont abouti. Donc, je vais maintenant vous les présenter et vous présenter aussi les hypothèses qu'on a fait dès le début, que l'on a émis dès le début au mois de mars. C'était de se dire qu'on était confronté à une double situation, à une potentielle crise de mortalité, c'est-à-dire à un contexte de surmortalité, même si on n'en était pas certain, hein, puisque on n'avait que la situation chinoise à l'époque qui était, et les Italiens justement. Et c'est, je crois que si nous n'avions pas en Europe la situation italienne et cette situation qui avait entre 10 et 15 jours d'écart avec nous, je pense qu'on n'aurait pas répondu à l'AMR. Parce qu'en fait, on s'est dit, vraisemblablement, il y a quelque chose, on n'en est pas certain, mais on a fait l'hypothèse de cette crise de mortalité. Et en fait, c'est aussi parce que les opérateurs nous ont sollicités et nous ont dit quelles étaient leurs difficultés, qu'on a commencé à voir poindre éventuellement, et ça ne reste qu'une hypothèse et ça reste hypothétique encore aujourd'hui, une crise du funéraire. Alors, quand on dit une crise du funéraire, il faut le voir sur un prisme relativement important, puisque ça concerne toute la trajectoire, en fait, de fin de vie de la personne jusqu'à sa sépulture. Éventuellement, sa mémoire et son souvenir, mais il est trop tôt pour le dire. Donc, on est bien sur une dimension, enfin, sur différentes dimensions, mais bien sur cette question de la trajectoire et donc de la trajectoire de la personne défunte, des proches, mais également tous les acteurs professionnels éventuellement, mais également les bénévoles, les représentants des cultes qui interviennent de la chambre hospitalière, c'est-à-dire et de la chambre des EHPAD, au moment du décès jusqu'à la sépulture. Alors, c'est une des difficultés aussi de cette recherche, et au départ, on n'en avait pas pris la mesure, je pense, c'est qu'en fait, on a voulu embrasser très large parce que pour nous, il était important d'arriver à décrire justement cette potentielle crise du funéraire, et je vais rentrer dans le détail par la suite. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, on est sur des acteurs multiples, on est sur des lieux qui sont très variés et on est sur des situations qui le sont aussi, puisqu'on n'a pas voulu se centrer sur le Covid exclusivement, mais sur l'ensemble des décès. Donc, ça, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, ce que je vous propose, et ce travail-là a été fait depuis le mois de mars, quand on a répondu au projet, vous imaginez bien qu'on n'avait aucune statistique, puisqu'il y avait très peu de décès en France, il y en avait en Italie, et très peu également en Suisse. Donc, on a décidé, en fait, de faire porter cette recherche, et ces recherches, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a été lauréat, par ailleurs, du Fonds national suisse, donc c'est un double programme de recherche en France et en Suisse, mais on a aussi développé un terrain en Italie. En fait, si on a choisi ces terrains-là, tout simplement, et c'est aussi pour ça que j'insistais au départ sur des réseaux antérieurs, puisque ces réseaux étaient en cours de formalisation avec nos collègues suisses et nos collègues italiens. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas travailler sur ces trois pays. Mais vous allez voir, on est centré sur des territoires plus pointus. J'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, en fait, depuis quelques mois, on commence à avoir des données plus précises qui nous permettent de repérer cette situation de surmortalité dans les différents pays en question. Et donc, la difficulté auquel on doit faire face, c'est que, et il y a d'ailleurs eu des polémiques, même chez les chercheurs, moi, je l'ai beaucoup ressenti avec nos collègues historiens, notamment, qui, au départ, et peut-être encore aujourd'hui, nous disaient cette épidémie, cette pandémie, finalement, en termes de mortalité, ce n'est pas grand-chose au vu des pandémies et des épidémies qui ont pu toucher par le passé des sociétés humaines. Et c'est vrai que notre difficulté aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de cette crise de mortalité. Et je vais essayer de vous en donner quelques éléments. Donc, effectivement, on est bien sur une crise de mortalité qui se caractérise par une surmortalité avec une augmentation significative du nombre de décès durant une période déterminée. Vous avez un graphe qui est présenté sur la droite. Donc là, on est sur une période courte, du 15 mars au 27 avril. On voit, en France tout au moins, qu'on a une surmortalité qui est visible. Et je vais revenir dans le détail dans quelques minutes. En revanche, comme je vous l'indiquais, cette surmortalité qui est fondée sur des comparaisons par rapport aux effectifs totaux des décès des années précédentes, parce qu'il faut bien avoir un comparatif, est en fait très contrastée en fonction des territoires et elle est variable dans le temps. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Là, je vous montre des chiffres qui sont relativement récents. Donc là, on est sur une situation qui est une situation mondiale. Et on voit aussi que c'est une crise qui est bien sûr mondiale, hein, et c'est aussi pour ça qu'elle a été caractérisée comme une pandémie par l'OMS. On se rend compte malgré tout qu'elle n'a pas touché tous les pays dans le monde de la même manière, et que certains territoires, même si ça a été a posteriori, et c'est le cas du continent américain, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique latine, ils ont été touchés après, mais pour autant, ils ont été touchés plus durement. Après, la question qui se pose aussi, c'est sur les effectifs totaux. Évidemment, il faut ramener aussi à la population globale d'un pays donné. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que pour travailler avec nos collègues suisses, pour eux, ils ont l'impression que cette pandémie les a moins affectés qu'en Italie et en France, alors même que les statistiques sont finalement assez proches. Mais parce que en valeur absolue, il y a moins de décès nécessairement, puisque la population est beaucoup moins importante. Donc évidemment, il faut faire cet effort de conversion et ne pas raisonner qu'en effectif, bien entendu. Donc vous avez aussi, on voit sur le graphe qui est à côté, c'est assez intéressant parce que pour une fois, à l'échelle des épidémies ou des pandémies, l'Europe s'est retrouvée face à une situation où elle se trouvait aux prises avec une épidémie et une pandémie en premier, entre guillemets. Alors même que, certes, en Chine, cette pandémie a fait des décès, mais les statistiques sont ce qu'elles sont, et effectivement, on a relativement peu de décès enregistrés sur ces territoires-là. Donc là, on voit la différence, par exemple, sur l'Europe et l'Amérique, c'est qu'en Europe, on a un pic qui est assez visible, alors même que sur le territoire américain, il faudrait avoir évidemment des graphes plus précis en fonction des pays, mais on est sur des courbes qui sont non pas forcément plus plates, mais on n'a pas ce pic épidémique qui fait qu'on a une vision particulière en Europe de cette crise, en pensant potentiellement qu'elle est aussi derrière nous. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc il faudra évidemment qu'on fasse un travail beaucoup plus pointu sur cette crise de mortalité. On travaille évidemment avec nos collègues démographes sur ces questions-là, et on pourra travailler avec nos collègues historiens. Là, j'ai fait un focus sur la situation française pour vous montrer aussi que, quand je parlais de contraste à la fois du point de vue de la dimension temporelle, mais aussi du point de vue de la dimension spatiale, eh bien, on s'aperçoit, et cette carte est assez parlante, qu'en termes de décès, certains territoires, et vous le savez tous, ont été beaucoup plus affectés que d'autres. Et pas simplement les grandes métropoles, parce qu'on pourrait se dire, oui, il y a eu beaucoup de décès dans les métropoles. Quand vous regardez, on voit que la France est coupée en deux, d'est en ouest. Et ça, c'est très significatif, notamment sur les hôpitaux, mais également sur les EHPAD. Alors, ce qui est aussi surprenant, c'est que nous travaillons, et je vous donnerai quelques éléments tout à l'heure, principalement sur la région Rhône-Alpes, puisque c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne, pardon. C'est la région dans laquelle nous avons des liens de longue date avec des professionnels. Et je vous dirai pourquoi on a procédé de cette manière-là. Un contraste très fort entre la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble, alors qu'elles ne sont distantes que de 100 km. Et les professionnels de ces deux territoires n'ont pas vécu les mêmes situations. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le vécu de cette crise peut-être nous montrer aussi qu'on est face à des crises de mortalité et des crises du funéraire, contrastées sur le territoire et contrastées dans le temps. Donc le dernier graphe que je vous ai mis permet aussi de se situer par rapport à des crises antérieures. Donc là, on a la canicule de 2003, où on est sur... Et en gros, cette crise est une crise extrêmement spectaculaire qui touche, là, pour le coup, les grandes agglomérations, et notamment Paris. Et on a des témoignages sur la canicule de 2003, notamment des services funéraires de la ville de Paris, avec toutes les réquisitions par rapport à la gestion des corps. Le vécu des professionnels sur la canicule de 2003 et sur la crise du Covid était assez intéressant, puisque quand on interrogeait les mêmes professionnels, notamment à Paris, puisqu'on a des contacts aussi avec le Grand Paris, on a pu faire des entretiens avec ses interlocuteurs, on disait, eh bien, la crise du Covid est potentiellement moins dure à vivre pour les professionnels que la canicule de 2003. Mais elle s'est étalée dans le temps et finalement, ce qui pouvait être dit en début de pandémie, finalement, a été pondéré dans le temps en se disant que finalement, on retrouvait des situations assez proches que la canicule de 2003, alors qu'au départ, on ne disait absolument pas, ça n'a strictement rien à voir, c'est moins grave, on gère et on n'a pas les mêmes problèmes de flux. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça nous fait réfléchir aussi d'ailleurs, d'un point de vue déontologique et éthique sur notre posture de recherche, et c'est le cas notamment dans une autre recherche dans laquelle je participe qui s'appelle Covid EHPAD, où on intervient sur les EHPAD, où notre terrain est déjà recueilli, puisqu'on a fait tous nos entretiens. Est-ce qu'on doit retourner aujourd'hui sur le terrain? Parce qu'en fait, ce que nous disent les professionnels aujourd'hui, c'est que c'est bien la deuxième vague, alors même qu'elle est beaucoup plus atténuée, qui est plus dure, parce qu'en fait, c'est cette idée de deuxième fois, même si elle est atténuée. Et c'est aussi des professionnels qui sont épuisés et qui savent à quoi s'attendre, puisqu'ils ont vécu une première fois, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi très intéressant à appréhender et voir quelle est notre posture à ce propos. Donc, il me semble important, pour conclure sur cette crise de mortalité ou ces crises de mortalité, qu'il faut être très vigilant, ne pas aller trop vite en besogne. Bon, évidemment, quand je mets pandémie en cours, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois et il faut éviter de dire des bêtises parce qu'on ne peut pas être dans une anticipation. Il y a un certain nombre de choses qui nous dépassent. Il faut aussi être très vigilant pour ne pas lisser les données. Parce qu'en fait, si on raisonne à l'échelle d'un territoire, d'un État, on peut se dire, oui, ben ça représente 30 000 morts. 30 000 morts, c'est beaucoup. Ça correspond à peu près à 5% des décès sur une année. Mais c'est moins que les maladies liées au tabagisme ou, par exemple, toutes les maladies liées à l'alcool, par exemple. C'est 3 fois plus que les suicides. Donc, on peut arriver à mesurer et comparer en se disant, bon, mais finalement, ce n'est pas si important que cela, même si, en valeur absolue, ça représente quand même un nombre très significatif de décès. Pour autant, sur certains territoires, sur certaines périodes, on a 150% d'augmentation de décès. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête et ne pas lisser ces statistiques à l'échelle d'une nation et à l'échelle d'une année. Il faut avoir des indicateurs plus pointus. Et notamment, donc ça, on y reviendra, et il faudra justement qu'on travaille avec nos collègues démographes à ce propos. Ensuite, il y a un autre point qui est assez intéressant et qui est confirmé, non pas sur les décès, mais du point de vue des autres maladies. Notamment, on a, par exemple, un certain nombre de médecins aujourd'hui qui nous disent qu'il y aura beaucoup moins de grippe cette année. On le voit sur les épidémies de gastro-entérite, sachant que sur des personnes très âgées, ces épidémies de gastro-entérite ou de grippe peuvent être des facteurs de décès malgré tout. Donc, la difficulté auquel on est confronté, c'est que, et notamment le confinement l'a très bien montré, c'est que une augmentation significative des décès d'un côté par rapport au Covid-19, il y a eu une chute d'un certain nombre de causes de décès et on ne sait pas si cette chute va être reportée dans les mois ou années à venir ou si c'est tout simplement une chute qui n'aura pas d'incidence sur la suite. Donc ça, c'est extrêmement difficile d'en prendre la mesure. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Il y a un troisième facteur qui nous paraît essentiel, et ça, c'est très clair dans les travaux que l'on a pu conduire, c'est la difficulté qu'ont eu les médecins à déterminer les causes de décès, notamment parce que pas de test systématique et encore aujourd'hui. Une difficulté aussi sur la fiabilité relative des tests, parce que certaines personnes n'ont pas été diagnostiquées alors même que d'un point de vue clinique, tous les signes étaient présents et réunis pour dire qu'il s'agissait d'une personne atteinte du Covid-19 ou de la Covid-19. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'une zone grise, et notamment dans les premiers mois de la pandémie, était très importante. et que, contrairement à ce que l'on peut penser, cette zone grise, elle a aussi bien consisté à faire basculer des personnes dans une détermination des causes en disant bah, cette personne est décédée du Covid-19 ou cette personne n'est pas décédée du Covid-19. Alors, on pourrait se poser la question en disant mais pourquoi et qu'est-ce qui ferait que, quand on a un doute, pourquoi on ne cote pas sur le certificat de décès? Alors, évidemment, sur le certificat de décès qui arrive à l'état civil, on ne cote pas Covid-19, hein, bien entendu, hein, puisque ce sont des données médicales qui ne sont pas diffusables. Ça l'est pour les statistiques de décès sur les stades du CPDC, mais pour autant, sur l'état civil, ce sont d'autres, et on va y revenir tout à l'heure, d'autres éléments qui sont pris en compte. Alors, tout simplement, pourquoi parfois on ne cote pas, on n'indique pas Covid-19 et mise en bière immédiate? Parce qu'en fait, à partir du moment où la personne est la personne défunte est diagnostiquée, ou en tout cas ses causes de décès sont associées au Covid-19, ça va impliquer toute une trajectoire, notamment par rapport à son corps et par rapport à la prise en charge par les professionnels, mais également sur la trajectoire du décès ou de l'accompagnement de la famille, on va se retrouver dans des situations qui peuvent être perçues par les professionnels et comme par les proches comme extrêmement difficiles. Donc il y avait d'une part l'idée de ne pas stigmatiser des personnes pour lesquelles les tests n'étaient pas posés, mais également pour protéger dans une logique d'empathie ou peut-être de compassion vis-à-vis des familles, parce que les professionnels se sont rendus compte de ce que ça impliquait que d'aller vers ce type de réponse. Donc ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Donc là, on est sur les éléments relatifs à une crise de mortalité. Évidemment, nous, ce qui nous intéressait aussi et surtout dans ces programmes de recherche, c'était de réfléchir à une potentielle crise du funéraire et toutes les questions que pouvaient se poser les professionnels et nous avec eux, c'était éventuellement le basculement vers des gestes qui seraient des gestes exclusivement mortuaires ou tout au moins des gestes techniques, c'est-à-dire est-ce que par l'intermédiaire de cette crise, on sort d'une prise en charge, d'un accompagnement, même si c'est une diversité de prise en charge, une diversité d'accompagnement, mais il y a un certain nombre d'invariants. Quand une personne décède, en règle générale, ses proches sont là ou souhaitent être présents. Ensuite, il y a des soins du corps qui sont réalisés, la toilette funéraire. Il y a une mise en bière avec les proches présents. Il y a des conditions de stockage du cercueil du corps, des conditions aussi particulières par rapport au transport, éventuellement la famille qui suit le corps et le corbillard, une présence dans les crématoriums, également la famille organisant des obsèques et étant présente lors de la dispersion des cendres ou lors de l'inhumation de l'urne ou du cercueil. Tous ces temps-là que je viens de dresser très rapidement, en fait, ont été ébranlés pendant la crise, notamment au mois de mars et avril. Et en fait, notre réponse au programme de recherche a consisté à dire qu'en fait, on était face à une double situation qui était donc faire face à des flux et potentiellement à une crise de mortalité, mais aussi des réponses en matière de gestion sanitaire de la crise et les décisions notamment par rapport au confinement qui ont une incidence très importante sur l'ensemble des décès, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et l'une des conséquences a été que les proches, mais également les bénévoles, parfois les représentants des cultes, n'ont pas été présents ou très peu présents dans chacun des temps que je viens d'expliciter, ce qui fait qu'en fait les professionnels se sont retrouvés relativement seuls face au corps, face au cadavre, et que toute la question a été pour eux, tout en se protégeant, de savoir s'ils devaient ou pouvaient maintenir une relation au corps mort, qui était une relation fondée sur des pratiques funéraires et non pas exclusivement techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très présent dans le discours des professionnels, même si l'une des difficultés a été aussi de se protéger soit en tant que personne et aussi pour les managers ou les gestionnaires de cimetières ou de crématoriums, c'était de maintenir un service au public. Et l'idée, c'était de ne pas se retrouver dans une situation où on ne pourrait plus prendre en charge les corps. Donc ça, je vais vous donner quelques éléments. Donc on s'est trouvé dans une situation, notamment en mars-avril, mais c'est une situation qui perdure aujourd'hui, et ça, je pense qu'il y a on ne se rend pas véritablement compte parce qu'on se dit oui, mais maintenant les choses sont relativement rodées, et en fait les opérations funéraires n'ont guère évolué depuis le mois de mars. En fait, les contraintes sanitaires et organisationnelles ont fait que on a été face, quand je dis on, c'est-à-dire toutes les personnes qui de près ou de loin ont été amenées à vivre ou à devoir gérer la perte d'un proche ou gérer un corps. Donc à chacune des étapes, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, il y a eu des transformations et ça a concerné l'ensemble des acteurs, à la fois le défunt, ses proches, les professionnels, les bénévoles et les représentants des cultes. Alors la difficulté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, de manière simplifiée, il serait plus simple pour tout le monde d'arriver à dissocier la situation des personnes atteintes du Covid-19 de celle de l'ensemble des autres personnes décédées. Et en fait, on s'est rendu compte, mais dès le début de ce programme de recherche, que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce simple partage qui serait plus simple d'un point de vue heuristique, mais en fait qui ne fonctionne pas. Malgré tout, il y a des préconisations sanitaires particulières pour les personnes atteintes du Covid-19 ou susceptibles de l'être. Et c'est toute la difficulté parce qu'on a cette question des personnes qui sont susceptibles de l'être. On s'est rendu compte, et ça, il y a eu une alerte très importante, et d'ailleurs qui a amené les pouvoirs publics à changer leur fusil d'épaule au mois de mars, entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc nous, on a été aussi vraiment en difficulté parce qu'en fait, sur un laps de temps très réduit, les préconisations et les recommandations ont évolué durant les premiers temps de la crise. C'est que les préconisations étaient qu'il fallait absolument que les professionnels, notamment du funéraire, pour conduire leur action dans le temps, ne tombent pas elles-mêmes malades et puissent être auprès des familles endeuillées, mais également puissent intervenir sur les corps et pourvoir aux funérailles, dans un contexte qui était sanitairement relativement inquiétant. Et donc, les pouvoirs publics, dans un premier temps, avaient émis des préconisations très fortes, et notamment une limitation drastique des conditions de visite à l'hôpital et en EHPAD, et parfois même l'impossibilité de dire adieu aux défunts. Et donc là, un certain nombre de personnes, à la fois sur des recommandations éthiques, mais également donc le mouvement des soins palliatifs, est intervenu auprès du Premier ministre, auprès du ministre de la Santé, pour dire que ça n'était pas acceptable. Et vous êtes bien d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire que dans un cas ou dans l'autre, la personne a raison ou personne n'a tort, mais c'est intéressant de voir comment il y a eu un travail effectué de différents collectifs pour dire que là, il était absolument nécessaire qu'il y ait un revirement de situation des pouvoirs publics, de prise en compte de la situation particulière des personnes en fin de vie, qui ne sont pas les personnes hospitalisées pour lesquelles la famille pourrait réintervenir par la suite. Donc là, il y a eu des préconisations qui se sont assouplies en cours de crise pour dire qu'il était absolument nécessaire que la famille, une personne ou deux personnes, pas plus, puisse dire adieu à la personne avant son décès et puisse également venir la voir alors que le décès est intervenu. Or, quand on fait des entretiens avec des agents de chambre mortuaire, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est dans des situations de suspicion de Covid-19 ou de Covid-19, en fait, la case sur le... Je vous montrerai tout à l'heure sur le certificat de décès. Deux cases sont cochées, mise en bière immédiate et obstacle aux soins de thanatopraxie. Or, durant cette crise, il y a eu un moment donné où, pour ne pas mettre en difficulté les proches et pour que la mise en bière ne se fasse pas immédiatement, un certain nombre de médecins ont coché juste obstacle aux soins de thanatopraxie quand il y avait une suspicion de Covid et non pas mise en bière immédiate. Parce que mise en bière immédiate supposait que dès le décès constaté, la personne était mise en housse, fermée, et le cercueil fermé immédiatement. Ça voulait dire que si la famille arrivait 2 ou 3 heures plus tard, il était absolument impossible de rouvrir la housse et d'ouvrir un cercueil, évidemment, ça n'est pas possible. Donc, on voit qu'il y a eu des ajustements, et parfois, on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu des ajustements, notamment pour des personnes qui connaissaient très bien la réglementation, puisqu'elles y ont été plus attentives et qu'elles connaissaient les conditions. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que parfois, parce que le défunt était le père d'une infirmière du service, ben cette personne pouvait voir le défunt alors que ça n'était pas permis aux autres familles. Donc tous ces ajustements, on essaye de travailler dessus. Et la difficulté auquel on est confronté, comme je viens de vous le dire, c'est d'arriver à avoir une lecture pointue sur les périodes. C'est-à-dire que dans un même service, il y a eu parfois, ça a été le cas dans une chambre mortuaire, 3 changements de pratique en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Et parfois avec des professionnels qui n'appliquaient pas les directives parce qu'elles les trouvaient pas humaines. Et au contraire, des professionnels qui allaient au-delà des directives pour protéger les professionnels. Donc, c'est en termes de documentation, évidemment, on travaille sur la réglementation puisqu'il faut la connaître. Mais pour autant, il faut travailler sur la manière dont cette réglementation est mise en œuvre dans la durée. Donc là, je vous ai parlé de la situation de la chambre mortuaire. La difficulté, c'est qu'avec une mise en bière immédiate, l'inhumation ou la crémation a lieu dans les 24 heures. 24 heures, c'est extrêmement rapide par rapport aux pratiques habituelles. Ça veut dire que les obsèques doivent se dérouler dans les 24 heures. Si vous êtes dans la période du confinement, vous imaginez bien les difficultés, puisqu'en plus, il y a des obstacles aussi au déplacement, et notamment sur la famille très proche. Qu'est-ce qu'une famille dans ces cas-là ? Ça, c'est aussi très intéressant pour la sociologue de la famille, puisque moi, je travaille avec des collègues qui sont aussi sociologues de la famille, anthropologues de la famille. Qu'est-ce que c'est qu'un proche ? La personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles, c'est une personne. Est-ce que c'est juste cette personne-là qui peut être présente et organiser les obsèques ? Ou est-ce que ce sont les proches ? Qui sont les proches ? Est-ce que ce sont comme on le prévoyait dans la réglementation jusqu'en 2008, est-ce que ce sont les descendants, les ascendants, le couple marié, ou est-ce que le proche, c'est l'ami, le meilleur ami, par exemple. Et donc, sur ces autorisations de déplacement, on s'est retrouvé dans des situations compliquées, et notamment sur France métropolitaine et sur les territoires extramarins, mais notamment aussi par rapport à la Corse, notamment. Donc, un certain nombre de personnes n'ont pu se déplacer ou se sont interdites d'elles-mêmes de se déplacer, et notamment parce que certaines personnes avaient peur aussi de se retrouver dans une situation inextricable. Donc, on s'est retrouvé dans des conditions de réalisation des obsèques extrêmement raccourcies pour les situations de Covid-19 et avec des inhumations et des crémations extrêmement rapides. Si ça vous intéresse, on pourra prendre le cas tout à l'heure des rapatriements à l'étranger, par exemple, qui pour moi est une situation extrêmement sensible dont on a finalement très peu parlé et qui pourtant est très intéressante. Donc là, je vous ai mis un certificat de décès qui a changé. Ils ont changé les certificats de décès en 2017-2018. Et vous voyez, le 3, la flèche 3, sur les informations funéraires, il a bien écrit « obstacle médico-légal », notamment sur l'obligation de mise en bière immédiate et sur les obstacles aux soins de conservation. Donc, vous avez deux cases qui sont différentes, comme je viens de vous l'indiquer. Donc, évidemment, sur le certificat de décès, on ne marque pas COVID-19, mais dès que était mentionné obstacle aux soins de thanatopraxie et mise en bière immédiate, pendant toute la période et encore aujourd'hui, on se dit « Ah, ben c'est une situation de COVID-19 », alors que ça n'est pas nécessairement le cas, il peut y avoir d'autres types de situations. Donc, durant toute la période et encore aujourd'hui, il y a un obstacle aux soins de thanatopraxie pour les personnes atteintes du COVID-19. Et d'ailleurs, les soins de thanatopraxie n'étaient pas réalisés, et d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas de partout, n'étaient pas réalisés non plus pour les autres décès, quelles que soient les causes. Il n'y avait pas de soins de thanatopraxie, pas d'intervention invasive sur les corps, alors même qu'il pouvait y avoir des toilettes rituelles, entre guillemets, de surface, parce que les soins de thanatopraxie sont invasifs. Je vous ai mis aussi une autre diapo sur l'évolution de la réglementation, et notamment des décrets d'avril et de mars 2020, qui montrent en fait l'évolution, et notamment des termes qui ont été usités durant la période et qui sont assez intéressants à observer. Donc là, on est en train de faire un travail sur la réglementation avec des collègues juristes parce que c'est extrêmement important pour nous d'avoir leur analyse, puisque voilà, quand on est sociologue ou anthropologue, on ne va pas analyser les textes juridiques comme le ferait un juriste. Donc là, on a aussi dans notre comité scientifique deux collègues juristes spécialistes de la santé qui nous aident à avancer. Et là aussi, on s'est rendu compte, parce que là, la situation française, on est sur un état-nation, donc c'est relativement simple. Nos collègues suisses sont dans une logique cantonale. Et ce qui a été mis en œuvre dans le Tessin, par exemple, est très différent des cantons de Vaud et des cantons de Genève. Donc là, on est sur des directives qui sont cantonales et non pas nationales. Alors là, je viens de vous parler du contexte des cas de COVID-19. Là, on va maintenant aller au-delà et se concentrer sur l'ensemble des défunts, puisque comme je vous l'ai dit, l'hypothèse de ce contrat de recherche, c'est bien de se dire que au-delà de cette crise de mortalité et également d'une prise en charge spécifique sur les défunts atteints du ou de la COVID-19, on est bien sur une crise du funéraire qui concerne l'ensemble des défunts sur une période donnée. Alors après, vous pourrez me dire, est-ce qu'au-delà du confinement, on peut continuer à faire cette hypothèse-là? Je n'en suis pas sûre, mais pour l'instant, on la maintient encore effective, même si on est sorti du pic épidémique, comme je vous l'ai montré dans les diapos précédentes. Donc la difficulté, c'est que on est dans une incertitude. Je vous ai parlé des zones grises tout à l'heure, mais aussi, ça c'est une question qui pourrait intéresser un certain nombre d'entre vous, c'est sur le partage et la levée de l'anonymat des données de santé. Moi, je suis assez surprise parce qu'on dit très librement aujourd'hui, oui, mon fils dans sa classe, un de ses camarades, on donne son nom, a le COVID-19. Vous imaginez s'il y a quelques années, on avait dit, oui, un des camarades de ma classe et atteint du VIH. Je fais cet amalgame-là pour dire que pour la COVID ou le COVID-19, on va très vite en besogne et on lève les données et l'anonymat des données médicales en disant cette personne a le COVID et on le rend explicite, alors même que l'ARS, par exemple, ne donne évidemment pas l'identité des personnes. Dans la presse aussi, on voit telle personne a eu tel élu et est atteint de cette maladie-là. Donc c'est assez intéressant sur le rapport à la maladie et ce que ça implique. Bon, on sort du programme de recherche. En revanche, la question de cette incertitude, qui sait quoi? Et là, pour le coup, les opérateurs funéraires ne savent pas. Parce qu'en fait, les opérateurs funéraires n'ont pas à connaître les causes de décès des personnes qu'elles traitent. En revanche, comme je vous l'ai dit, il y a des indications sur les certificats de décès qui permettent par extension de se dire « aïe ». Là, il faut prendre des précautions particulières. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez intéressant. Et aussi de se rendre compte que les opérateurs funéraires, dans le doute, pouvaient prendre des précautions, notamment au début de cette crise, qui faisaient qu'ils allaient prendre les mêmes précautions, ne sachant pas, notamment quand il était côté absence de soins de thanatopraxie, et même si la mise en bière n'était pas immédiate, ils appliquaient les mêmes précautions qu'aux personnes atteintes de la COVID-19. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élément qui a été le plus sensible durant cette crise, ce sont les obsèques. En France, hein, bien entendu, en Suisse et en Italie. Quoique en Italie, on est vraiment en bordure. Cette situation est vraisemblablement très différente dans d'autres pays, tel qu'on pourra le constater, tel qu'on pourra en discuter si vous le souhaitez. Mais en tout cas, nous, dans ce que l'on observe, c'est vraiment la situation des obsèques, qui est les adieux au corps et les obsèques. En fait, il faut bien que vous représentiez ce que ça représente. Les crématoriums sont fermés au public. Personne, à l'exclusion des professionnels qui y travaillent et sur des équipes réduites, ne rentre dans les crématoriums. Les cimetières sont en accès réduit. Les rassemblements sont limités à 10 ou 20 personnes. En revanche, quand les toilettes funéraires sont permises, et là on n'est pas dans les cas de Covid-19, on a une à deux personnes qui rentrent dans les salons funéraires. Pas du tout, pas 20. Hein. Là je vous ai mis 10 ou 20, c'est bien sur les cérémonies d'obsèques. Des cérémonies d'obsèques qui se déroulent, j'ai fait une bêtise, à 10 ou 20 personnes, c'est quand ces cérémonies se déroulent. Et je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. Donc les familles ne rentrent pas dans ces espaces. Les crémations ont lieu, mais les crémations ont lieu soit de manière très accélérée pour les Covid-19, puisqu'on est dans des mises en bière immédiates, donc dans les 24 heures, il faut que ces crémations aient lieu. Donc, on n'est pas dans l'ordre d'arrivée des corps. On est bien dans des orientations différentes. Et il s'est avéré que dans un certain nombre de territoires, les crémations sont intervenues à J+15, voire à J+20, c'est-à-dire 20 jours après le décès de la personne, avec un stockage des corps pendant l'intervalle qui est tout à fait inhabituel, puisque, en règle générale, les crémations interviennent 5 à 6 jours maximum après le décès. Alors, il s'avère que parfois, des arrêtés municipaux sont pris, notamment pendant les épidémies de grippe. C'est arrivé dernièrement sur Lyon. Mais 15 jours après le décès, c'est très long. Donc, vous voyez d'un côté une accélération du temps et de l'autre côté un ralentissement. Et ça, c'est très intéressant, puisque quand on analyse une situation de crise, on a dans notre imaginaire, c'est accélération, gestion des flux, etc. Là, en l'occurrence, pour certaines personnes, ça a vraiment été un ralentissement du temps, d'autant plus difficile qu'on ne pouvait pas organiser les obsèques dans un certain nombre de cas, on ne pouvait pas se rendre sur place, et c'était aussi se dire que la personne défunte, elle est seule, dans un endroit qui n'est pas dédié à l'établissement du mort. Ce n'est pas une sépulture, ce n'est pas un cimetière, ce n'est pas un crématorium. Il faut aussi vous dire que le stockage des urnes, qui est possible puisque la réglementation le permet, on peut stocker des urnes dans un crématorium pendant une année. Donc là, en l'occurrence, on est bien dans les clous d'un point de vue réglementaire, mais les crématoriums ont dû ajuster leurs pratiques. Puisque là, on n'était pas sur des dizaines ou des centaines d'urnes stockées, mais des centaines, plusieurs centaines, 700, 800 urnes stockées. Donc, il a fallu créer des espaces de stockage. Et ça veut dire aussi que les professionnels ont dû se questionner sur comment allait-on remettre ces urnes. Est-ce qu'on allait les remettre, et je ne sais pas si vous vous souvenez des images en Chine de personnes faisant la queue devant les crématoriums pour récupérer des urnes cinéraires. Toute cette question de la remise des urnes n'est pas encore réglée, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de cérémonie d'obsèques. Alors, je m'explique, c'est que autant sur la crémation, autant sur l'inhumation, et notamment sur les cérémonies religieuses. Les cérémonies religieuses, dans quasiment tous les cas, ont pu se tenir en présence de très peu de personnes. En revanche, les cérémonies civiles n'ont pas pu se tenir, puisque les espaces dédiés aux cérémonies civiles, qui sont en règle générale dans les crématoriums, elles étaient fermées au public. Donc, pas de cérémonie publique. Dans les cimetières, certains cimetières ont été fermés au public, d'autres ont réduit considérablement le nombre de personnes. Donc, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas eu de cérémonie d'obsèques. Et donc, c'est bien les cérémonies civiles qui ont été le plus touchées, mais également le cas des rapatriements des corps à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux situations différentes. D'une part, les situations de Covid-19, où là, les cercueils sont zingués, et donc ça implique une situation un peu particulière, mais le rapatriement aurait été permis, puisque les cercueils sont fermés, évidemment, quand les corps sont rapatriés. Parfois, ils sont rouverts, donc c'est interdit, mais bon, ça peut arriver. En revanche, là, la difficulté a été la suivante, c'est que tout simplement, il n'y avait pas de vol. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Je fais une incise, j'ai une de mes amies qui est d'origine algérienne, sa maman est en Algérie, et sa plus grande crainte est que sa maman décède en Algérie, parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de possibilité de rapatriement de corps, puisqu'il n'y a pas de vol. Et déjà, il n'y a pas de possibilité de rapatriement, même des personnes aujourd'hui, puisqu'elle a la nationalité algérienne. Donc, tout ce qui n'était pas possible durant la période de confinement continue, malgré tout, à perdurer aujourd'hui, alors même qu'on se dit, ben non, les choses sont réglées et régulées, ça n'est pas si simple. Donc, il y a eu des ajustements pour les personnes, et quand on pense rapatriement, on pense, dans le cas de la situation française, beaucoup, enfin, on a l'impression que ça touche les personnes d'origine maghrébine, les personnes d'origine turque. En fait, c'est beaucoup plus large que cela. Donc, d'une part, il peut y avoir des rapatriements vers la France, et il y a aussi des rapatriements de corps en Italie, en Espagne, au Portugal, et pas simplement sur des préconisations d'ordre religieuse, mais simplement des personnes qui souhaitent être inhumées dans leur pays de naissance. Donc c'est intéressant, ou leur pays d'origine de leur famille. Et là, la question qui s'est posée, c'est une question aussi sur les questions d'ordre logistique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc cette crise, comme je vous l'ai indiqué, était particulièrement vive au moment du confinement, puisqu'il y avait des restrictions, notamment de déplacement et de rassemblement, mais elle a touché l'ensemble des défunts. Et au vu des statistiques que je vous ai données tout à l'heure, il nous semble important, en fait, de faire un rappel du nombre de personnes que ça peut concerner, à la fois en termes de défunts et en termes de proches. On a parlé tout à l'heure de 31 000 décès. Quand on était en mars et en avril, on était autour de 26 000 décès. Donc, il y a quand même, les chiffres augmentent encore aujourd'hui. Quand on ramène le nombre de défunts totaux, donc là, c'est des estimations, hein, sur deux mois de confinement, on est sur environ 100 000 décès en France, 100 000 décès en Italie. On est très loin. On est très au-delà des chiffres qui sont indiqués quand on ne traite que la question des défunts du Covid-19. Or, comme je viens de vous le montrer, l'ensemble des familles, l'ensemble des proches, l'ensemble des professionnels, des acteurs intervenants ont été touchés de manière beaucoup plus massive que la simple, qui n'était déjà pas simple du tout, prise en charge des défunts de la Covid-19. Et si vous ramenez là, on est sur des effectifs par rapport au décès. Si on est sur les proches, eh bien, il y a des milliers. On peut se dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes, voire près d'un million de personnes, qui ont été touchées ou qui ont été affectées par cette situation-là, à des échelles variables, bien entendu. Et justement, il va falloir travailler en finesse. Donc là, je vais faire. Je ne sais pas. J'y parle depuis combien de temps ?
Il n'y a pas de souci.
Hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, je souhaitais vous donner quelques éléments d'ordre méthodologique, puisque là, je viens de vous faire un vaste panorama sur crise de mortalité et crise du funéraire. Donc, vous dire aussi sur quel territoire on travaille. Donc, je vous ai dit précisément tout à l'heure qu'on travaillait principalement sur la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble, avec des extensions dans le Grand Est et sur la métropole de Paris. En Suisse, on travaille sur les cantons de Genève et les cantons de Vaud, et on a décidé, après que cette recherche ait démarré, de travailler sur le canton du Tessin. Pourquoi travailler sur le canton du Tessin? Tout simplement, puisque c'est le canton, bon, qui est italianisant, mais ce n'est pas la question, c'est le canton qui est le plus proche, qui a eu le plus de défunts en Suisse, mais qui est le plus proche de l'Italie, notamment de la Lombardie, et tout simplement parce qu'en fait il y a eu un transfert des défunts italiens vers les crématoriums du canton du Tessin, donc avec une ouverture des frontières, non pas pour les obsèques mais pour le traitement des corps. Et ça, c'était très intéressant puisqu'il y a beaucoup de crématoriums en Suisse. Et l'une des questions que l'on se pose aussi, ça a été quelles ont été les décisions et quelles ont été les recommandations du recours à la crémation. Donc ça, c'est une question qui est une question qui se pose dans toutes les épidémies, hein, notamment enfin, les épidémies récentes. Ça a été le cas notamment pour le VIH, où on voit qu'il y a un recours plus systématique à la crémation. Alors pour le VIH, on pouvait aussi se dire que c'était par rapport à une représentation de la contagiosité, mais aussi par rapport à l'âge des défunts. Là, pour l'épidémie de Covid-19, on est, vous l'avez peut-être vu et vous le savez, on est sur des défunts qui sont très âgés, hein, puisqu'avec une moyenne d'âge autour de 80 ans en France. Pourquoi ce recours massif à la crémation ? Il y a une interrogation, sachant qu'en Suisse, il y avait plutôt une préconisation de recours à l'inhumation pour pas qu'il y ait d'engorgement des crématoriums, puisqu'en fait, il fallait que les fours puissent permettre entre 15 et 18 crémations jour, ce qui était extrêmement compliqué. Donc là, c'était intéressant, puisque entre les recommandations des pouvoirs publics et des gestionnaires de crématoriums et des médecins, on était plutôt sur recours à l'inhumation en Suisse, alors même que on a observé une augmentation de la crémation. Il s'est avéré aussi vraisemblablement, alors ça c'est le cas en France, qu'un certain nombre de professionnels aient dit aux familles que la crémation était obligatoire en cas de Covid-19. Donc là, il y a et notamment des services d'état civil qui nous l'ont mentionné. Donc là, on a un vrai doute. On ne sait pas trop ce qui a circulé. Il y a des, si vous voulez, il y a un imaginaire, il y a des discours. Et on n'arrive pas à en prendre la mesure. Évidemment, on ne trouve pas de traces écrites de ces préconisations-là, puisque les pouvoirs publics allaient plutôt dans le sens inverse. Pourquoi avoir choisi de travailler sur la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble ? Pourquoi travailler sur Genève et le canton de Vaud ? Bon, sur l'Italie et la Lombardie, c'était plus simple. Eh bien, tout simplement, c'est que quand on a proposé la réponse à nos appels à projets, il y avait 500 morts en France. On ne savait pas quelles allaient être les zones les plus touchées par la pandémie. On savait que dans le Grand Est, il y avait un cluster dans le Grand Est. Paris n'était pas encore très, très affecté quand on a répondu. Donc, en fait, on n'en savait strictement rien. Alors, on a souhaité travailler de cette manière-là, tout simplement parce que nous avons, de par nos terrains antérieurs, une grande connaissance de ces terrains-là, mais surtout des contacts antérieurs avec les professionnels des sites. Et en fait, pour tout dire, on était quand même pendant la période de confinement, il fallait faire des entretiens pendant la période de confinement, on avait un obstacle, on ne pouvait pas aller sur le terrain, on n'avait pas le droit de faire des observations, il fallait être dans une situation de grande confiance avec les professionnels que nous allions interviewer, surtout qu'il y avait non pas une position de défiance des opérateurs funéraires, mais ils étaient très affectés par la situation qui était la leur, puisqu'en fait, tant le président de la République que le Premier ministre que le ministre de la Santé, jamais il n'a été fait référence à leur situation. Alors même qu'on a parlé de la fin de vie, on a parlé des proches, mais on n'a jamais parlé des opérateurs funéraires, on n'a jamais parlé des services d'état civil qui étaient confrontés à des difficultés très importantes. Donc, il fallait qu'on travaille avec des professionnels qui avaient toute confiance en nous. Et on a eu la chance, et on venait de faire un travail sur les décès périnataux, où on avait beaucoup travaillé avec les services d'état civil et avec l'ensemble des acteurs, et pas simplement les opérateurs funéraires. Et donc, sur les territoires qui ont été les nôtres, et même les professionnels qui ne nous connaissaient pas, tous ont accepté de nous répondre. La plus grande difficulté que l'on a et que l'on a encore aujourd'hui, c'est avec les chambres mortuaires hospitalières. Parce que là, pour le coup, on est sur des données assez sensibles, et notamment sur les questions de santé. Donc, on a réalisé des entretiens. Là, j'ai du mal à les décompter puisqu'on continue à les réaliser. Je pense qu'on a à peu près, on a à peu près 70 ou 80 entretiens. On commence à aller sur le terrain, mais c'est pas simple parce qu'il y a à nouveau des préconisations sanitaires où il n'est pas recommandé de faire rentrer des intervenants extérieurs. C'est le cas en EHPAD, ça paraît évident. Sur les chambres mortuaires hospitalières, ça n'est pas simple non plus. Chez les opérateurs funéraires, c'est compliqué. Mais bon, l'idée, c'est bien de retourner sur le terrain pour faire des observations dans les différents sites que j'indiquais. De même, on a commencé à réaliser des entretiens avec les personnes endeuillées, tant des personnes qui ont connu des décès liés au Covid-19 ou pas. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on a réalisé une dizaine d'entretiens avec des proches endeuillés. C'est des entretiens qui sont extrêmement lourds. On a l'habitude de réaliser ce type d'entretien. Pour tout dire, humainement, moi, j'ai réalisé une vingtaine d'entretiens et je les ai réalisés, ces entretiens, en mars et avril. J'en ai réalisé aussi pour la recherche Covid-EHPAD, mais peu. Au mois de juin, saturation, je ne pouvais plus réaliser d'entretien. Je n'y arrivais plus, tout simplement parce que on a été nous-mêmes confinés, donc c'est difficile. Mais je me suis rendu compte que on n'est pas sur du récit, on est sur du vécu en direct. Et on a beau avoir l'habitude de travailler sur ces terrains-là, c'était aussi extrêmement difficile puisqu'on faisait des entretiens téléphoniques, on ne voyait pas les personnes, ou des entretiens en visio, mais on n'avait pas l'opportunité, une fois l'entretien passé, de pouvoir échanger autour d'un café. Vous voyez, je vous parle de cela, j'ai déjà des vertiges, donc ça montre bien quand même la difficulté des conditions de réalisation de ces entretiens, qui sont des entretiens très lourds, et pas de possibilité d'échanger ensuite autour d'un café, dans le croissant, etc. Donc, renvoyer chacun à sa solitude après coup. Donc, difficile, je dois le dire, on va continuer, bien entendu, mais donc saturation beaucoup plus rapide que sur les autres terrains sur lesquels j'étais précédemment. Peut-être, j'ai deux diapos pour conclure. Évidemment, là, je ne suis pas rentrée sur des éléments théoriques et des éléments d'ordre analytique, puisque pour l'instant, on est quand même face à notre terrain et on n'a pas voulu... on a des hypothèses, bien entendu, de capacité des acteurs dans des contextes de crise à faire avec la crise qu'ils traversent ou qu'elles traversent, que ce soit des acteurs professionnels ou des personnes endeuillées. Cette hypothèse, elle est bien entendu présente, c'est des questions qu'on évoque, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt, puisqu'on n'est pas sur des mises en récit, on n'est pas sur du souvenir, on n'est pas sur de la mémoire, et il y a tout un tas de pratiques qui n'ont pas encore été réalisées, notamment sur les secondes obsèques et sur la remise des urnes incinéraires qui n'est pas forcément encore effectuée. Donc, tous ces éléments théoriques et tous ces éléments relatifs à de très nombreux travaux sur ces terrains-là, et notamment sur les contextes de mort de masse, on les a bien entendu en tête. On a bien en tête aussi les travaux de nos collègues historiens et archéologues. Mais pour l'instant, je souhaitais d'abord vous présenter les éléments d'ordre empirique, même si je ne vous ai pas mis pour l'instant des éléments, notamment sur des extraits d'entretien. Donc, oui, évidemment, on creuse un sillon et c'est quelque chose qui est important. Je pense aussi qu'il faudra qu'on arrive à sortir de notre contexte européen parce que c'est un contexte, j'ai l'impression, très spécifique et qu'il faudra arriver sur des comparaisons internationales. Notre difficulté, c'est qu'il va falloir travailler au plus petit du petit puisqu'on se rend bien compte qu'il y a des données qui sont très spécifiques au niveau local, mais quand je dis local, c'est parfois sur un service d'état civil qui ne correspond pas au service d'état civil voisin, donc ça c'est quand même voisin, c'est-à-dire la commune d'à côté, et en même temps sur des données internationales, donc des réponses situées. Je vous ai donné à peu près tous ces éléments-là. Ce qui est aussi très difficile, c'est que dans le même temps, on est confronté à une attente des médias, des pouvoirs publics, mais également des opérateurs funéraires qui comptent sur nous puisque personne ne pense à eux. Donc, c'est difficile. Difficile d'avoir une posture de recherche juste. J'ai été obligée à certains moments, par rapport à un certain nombre de mes collègues qui travaillent sur ce programme de recherche, à remettre à rétablir qu'on était bien dans une perspective de recherche et qu'on n'était pas non plus au service des opérateurs funéraires. Donc ça, ce n'est pas simple, parce qu'on n'est pas tous d'accord au sein de cette recherche. Et moi, je considère que c'est une recherche, malgré tout, scientifique, financée par une instance nationale ou par deux instances nationales de la recherche. Donc, on est bien dans une posture de recherche et non pas d'appui des opérateurs funéraires, même si on peut évidemment leur donner des matériaux de recherche. On a été auditionné, plusieurs collègues, par une commission parlementaire et ils attendent des réponses alors même qu'on est juste en train de recueillir des données. Donc, tout ça n'est pas simple et il faut vraiment qu'on réfléchisse à la manière de se positionner. Donc, les sillons et les questions de recherche, là j'en ai noté 7 ou 8, c'est bien la question des glissements d'une réponse funéraire à une réponse mortuaire, ou c'est, et même il faudrait le mettre au pluriel, parce qu'en fait, en fonction des périodes, en fonction des espaces, donc il y a effectivement des glissements.
Tu peux expliquer la distinction ?
Oui. L'idée, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la réponse mortuaire, c'est bien, il faut traiter des corps, il faut traiter des cadavres. Il y a une réglementation et il faut être dans les clous du point de vue de cette réglementation-là. La réponse funéraire, c'est en deçà, au-deçà, au-delà, et à côté de ces gestes qui sont des gestes mortuaires, c'est par exemple la différence entre une toilette mortuaire et une toilette funéraire. C'est toute la dimension aussi sociale, rituelle, mais pas nécessairement rituelle. C'est tout ce que l'on peut mettre au-dessus ou à côté de ces gestes mortuaires, notamment sur l'organisation des obsèques, la due au corps, la toilette, etc. Donc, si on pourra évidemment le voir de manière plus pointue. C'est aussi toutes les articulations incertaines entre les acteurs et notamment les passages de témoins. Eh bien, notre collègue suisse a par exemple démontré que la chambre mortuaire hospitalière dans les hôpitaux du Tessin, le seul geste et le seul lien, qui n'est même pas un geste, c'est une clé. C'est-à-dire que des corps sont mis dans des tiroirs de la chambre mortuaire et les opérateurs funéraires rentrent par une autre porte, ont une clé, rentrent dans les services et il n'y a plus aucun contact physique entre ces acteurs-là pour justement se prémunir pendant la période sur des conditions sanitaires. Donc, il n'y a aucun contact physique entre les différents acteurs. Le seul contact, c'est le cercueil, ce qui fait lien. Donc ça, c'est intéressant parce que ces articulations incertaines entre les acteurs, c'est incertaine, voire absente, c'est assez intéressant à documenter. C'est aussi les effets potentiels en termes de deuil, de ces conditions spécifiques engendrées par la pandémie, tant sur les défunts du Covid-19 que pour les autres. C'est aussi, on se rend compte qu'il y a des inadéquations. Ça ne veut pas dire que c'est inadapté. Alors là, il faut aussi faire attention à être pas entrepreneur de morale. En tout cas, moi, j'essaye de ne pas l'être trop. En revanche, on se rend bien compte qu'il y a des nœuds, il y a des problèmes sur les cérémonies civiles, sur les carrés confessionnels, sur les rapatriements de corps, sur les dépôts provisoires. J'en ai pas parlé, mais ça me semble important. En fait, il y a, et ça permet de rentrer sur l'autre catégorie, la catégorie suivante, l'inadéquation des espaces funéraires, crématoriums et cimetières aux situations de mort de masse. On n'est pas prêt. En France, tout au moins, c'est le cas également en Suisse. On est prêt sur le nombre de cercueils. On n'est absolument pas prêt sur les chambres mortuaires, sur les salons funéraires. Et on n'est pas du tout prêt non plus sur des dépôts provisoires. Ces dépôts provisoires ne sont pas aux normes sanitaires pour conserver des corps pendant plus de 7 ou 8 jours. Et ils ne sont pas aux normes non plus pour accueillir parfois des corps. Donc ça, et c'est une question que même les gestionnaires de cimetières ne se sont pas posées, parce que très souvent, ils ne savent pas ce que c'est qu'un dépôt provisoire. Autre point, à mon avis, important, c'est le cas, et ça émerge notamment sur la situation des EHPAD, mais ça pourrait émerger dans les cimetières notamment et aussi dans les crématoriums, sur les contentieux et leur judiciarisation. On ne prend pas la mesure des enjeux. Et donc, on va avoir Alors là, le problème, c'est qu'il faut avoir une recherche longitudinale, puisque, enfin, en tout cas sur le long terme, puisque ces contentieux n'émergent pas en temps réel, mais il faut du temps pour les observer. Mais sur les EHPAD, c'est très clair, il y a des contentieux, notamment sur les décès en EHPAD. Et bien sûr, il faudra avoir une réflexion plus générale sur les transitions funéraires en cours, à la fois sur les enjeux démographiques, sur le traitement des corps et sur les enjeux sur les sépultures et pas simplement sur les cimetières. C'est toute la question de est-ce que ces transitions sont des transitions au long cours, telles qu'on peut le voir sur d'autres questions sociales, ou est-ce que ces transitions sont aussi heurtées ou émergent suite à des situations de mort de masse, quelles qu'elles soient. Et donc ça, c'est une question qui est extrêmement importante que l'on va conduire avec nos collègues historiens. Voilà, ben, je vous remercie.
Bien, merci infiniment, Gaëlle, pour cet exposé très riche qui ouvre à mon avis plein de pistes plein de pistes et plein de questionnements, j'imagine, pour le public aussi. D'avoir éclairé aussi cette question de cette double crise, à la fois mortuaire et funéraire, mais en même temps la nécessité de bien distinguer les questions des temporalités, des territoires aussi. Alors, j'aurais potentiellement. Et aussi ce que tu soulignes sur les questions d'ordre éthique, méthodologique, là, sur la posture du chercheur à monter et à travailler sur une recherche à chaud, hein, parce que oui. C'est. Dans une situation en direct. J'aurais pas mal de commentaires ou de questions, mais je me dis que je vais peut-être laisser la parole soit à mes collègues, soit au public. Si le public peut ramener à ses vidéos, et puis on va.
Ah oui, donc je vais couper l'enregistrement.